Chers amis de Radio Courtoisie, bonsoir. Au micro, comme vient de vous l'annoncer Virginie, avec beaucoup de gentillesse et une efficacité sans pareil, la belle Laurence, dans le cadre de ce libre journal des traditions, assisté de Guylaine Lacoste, et j'ai la joie de recevoir eh bien, Thierry Bouclier pour la première demi-heure. Ensuite, je recevrai deux invités qui nous parleront des jeunes professionnels de Saint-Nicolas. Et puis je recevrai le responsable de l'ensemble Cœur Ardent. Et ce Cœur Ardent, eh bien, il nous dira exactement qu'est-ce qu'ils interprètent. C'est un ensemble musical, vocal même. Alors, Thierry Bouclier, je n'ai pas besoin de vous présenter parce qu'on vous connaît. Vous êtes, on peut dire, bien sûr, d'abord et avant tout, professionnellement, vous êtes avocat. Mais... historien, j'ai envie de dire, vous spécialisez dans la biographie, je me trompe?
Alors oui, j'ai écrit, bonsoir Monsieur Labbé d'abord, merci beaucoup de me recevoir, c'est toujours une joie de venir dans votre émission. Oui, alors j'ai fait effectivement un certain nombre de biographies, historiquement j'avais commencé par Jean-Louis Tixier-Vignancourt, c'est d'ailleurs à l'occasion de cette biographie qu'on s'était connus. Ensuite j'avais fait Pierre Poujade, j'ai fait Monsieur Labbé Coiffé, et ensuite j'ai fait quelques auteurs, ADG, le grand romancier des romans policiers, l'écrivain Alphonse de Chateaubriand, Pierre Drieu-La Rochelle, l'historien Jacques-Benoît Méchain, Roger Nimier en début d'année, et là effectivement Michel de Saint-Pierre, qui est un écrivain dont on va parler et que j'aime beaucoup.
Alors Michel de Saint-Pierre, une biographie, c'est le titre, aux éditions Via Romana, dans cette collection que dirige notre ami Rémi Perrin, des idées et des hommes. J'ai envie de vous poser une question déjà sur la couverture. Où avez-vous trouvé cette photo qui est un petit peu comme une illustration? On a l'impression que c'est quelqu'un qui... Alors, il sort, on peut le dire, d'une voiture...
Oui, d'un fiacre. Écoutez, c'est précisément Rémi Perrin qui a trouvé cette photo.
Avec une porte capitonnée, lanterne. On a l'impression qu'il sort du 19e siècle et il entre dans le nôtre. C'est ça que vous vouliez montrer, c'est ça?
Alors déjà, c'est une photo qui n'avait pas été publiée. Donc, effectivement, Rémi l'a trouvée. Donc, comme elle était effectivement assez originale, Michel de Saint-Pierre a son regard un peu malicieux, comme il l'avait sur cette photo. Donc, effectivement, cette photo illustre très bien la couverture.
Alors justement, est-ce que on peut dire, c'est un personnage complexe avec beaucoup de facettes, est-ce que Michel de Saint-Pierre est un petit peu de ces aristocrates normands, puisqu'il est originaire de Normandie, qui, attachés à leur famille, appartiennent un petit peu encore à l'ancien régime, et je pense bien sûr au livre qui... dont on ne parle plus malheureusement, mais les aristocrates, et le film qui en est sorti, on a l'impression que Pierre Frédéric, qui joue le rôle du héros, est effectivement un homme d'un autre siècle.
Alors, si vous voulez, effectivement, les aristocrates, donc il y a d'abord eu le livre qui a ensuite été adapté au cinéma, effectivement, avec Pierre Fresnay, qui est absolument remarquable dans ce film. Il y a également Maurice René, qui était un grand acteur. Alors, effectivement, ce film retrace bien, finalement, la philosophie qui était celle de Michel de Saint-Pierre, c'est-à-dire un homme qui était attaché aux traditions, qui était attaché à l'ancienne France, mais qui était également de son temps, je dirais, qui avait un pied dans le passé et un pied dans le présent, voire déjà dans l'avenir. Et effectivement, c'est toute la complexité de Michel de Saint-Pierre. Il ne faut pas voir en lui le vieil aristocrate passéiste, nostalgique d'une époque révolue. Non, effectivement, il était attaché à l'ancienne France, il était attaché aux traditions, mais il était pleinement du XXe siècle.
Et alors justement, au début, et ça vous le dites bien, au début de sa carrière, il n'est pas cet auteur qui écrit sur l'aristocratie, qui va écrire aussi sur le clergé, il sera connu d'ailleurs pour cela, les prêtres, les nouveaux prêtres, mais il est sur les docks.
Oui, alors effectivement, il a eu ce parcours très singulier.
Ça soit très aristocratique.
Non, effectivement, c'est ça qui est très intéressant chez lui. C'est-à-dire que donc il vient de cette famille aristocratique, famille qui était liée d'un point de vue familial avec Henri de Monterland, qui était ami avec Jean de La Varenne. Donc il y avait un bagage intellectuel et littéraire déjà très intéressant. Michel de Saint-Pierre passe son bac à Versailles. Ensuite, il s'inscrit à la faculté de lettres de Paris. Et puis très rapidement, il s'aperçoit que les études ne sont pas spécialement faites pour lui, et il décide, il annonce à ses parents qu'il renonce à ses études et il va donc être embauché comme ouvrier de simple manœuvre au chantier naval de Saint-Nazaire, donc à une époque où il avait 19 ans, donc il était extrêmement jeune, donc il va quitter ce milieu aristocratique, sans doute assez confortable pour découvrir la vie ouvrière, le monde ouvrier et toute la rigueur, la dureté que celui-ci surtout à l'époque peut impliquer. Et après avoir passé un an au chantier naval, il va s'engager comme simple matelot dans la Royale. Il sera marin pendant 4 ans et effectivement ses deux premiers ouvrages, Ce monde ancien puis La mer à boire, sont deux ouvrages qui sont inspirés de sa vie d'ouvrier, de sa vie de manœuvre et de sa vie de marin.
Oui. Est-ce qu'il garde des souvenirs de ce passage dans le monde ouvrier, fortement syndicalisé, fortement gauchiste? Il faut quand même dire que, en particulier, ce monde est rude et c'était un petit peu le vivier de toutes les contestations et révolutions.
Alors effectivement, il vit le Front populaire alors qu'il est au ouvrier au chantier naval de Saint-Nazaire, mais il porte un regard qui d'ailleurs me rappelle le regard que portait Simone Veil, la philosophe, et de même que Robert Brasillach qui en parle dans Notre avant-guerre, où finalement c'était Simone Veil qui parlait des grèves de la joie, où effectivement en 1936, ce qu'on a oublié, c'est qu'effectivement au-delà des revendications politique, syndicale, eh bien, il y a eu une joie chez les ouvriers, finalement une certaine liberté, une certaine libération qui s'est saisie d'eux, voilà, une certaine fierté finalement de venir travailler au moment du Front populaire. Et Michel de Saint-Pierre, eh bien, comprend, comme avait compris Simone Veil, comme avait compris Brasillach, cette joie qui saisit le monde ouvrier. Et effectivement, finalement, Michel de Saint-Pierre se situe un petit peu dans la doctrine sociale de l'Église, où effectivement, eh bien, on rejette à la fois le syndicalisme marxiste, mais on comprend les revendications des ouvriers face à un capitalisme qui peut être extrêmement dur, extrêmement inhumain. Et je pense qu'effectivement, Michel de Saint-Pierre, déjà, à cet âge-là, peut être rattaché à ce qu'on appelle le catholicisme social.
Et c'est même les chrétiens sociaux, la Tour du Pain, qui ont défendu effectivement la condition et des femmes et des enfants que le capitalisme sauvage faisait travailler.
Oui, il ne faut pas oublier qu'au 19e siècle, la révolution industrielle a été quand même extrêmement dure. Ça s'est poursuivi finalement jusqu'au Front populaire. Et puis, Michel de Saint-Pierre, et comme l'était Brasillach, qui le dit très bien dans Notre avant-guerre, comme l'était Simone Veil, heureux de voir que les ouvriers peuvent partir en vacances sur les tandems, aller à la plage, aller à la montagne. Et ça, finalement, c'était une avancée que Michel de Saint-Pierre a tout à fait apprécié. Et je crois qu'on ne peut pas lui reprocher.
Il faut dire que ces catholiques sociaux, d'ailleurs, s'opposent à cette bourgeoisie voltairienne, capitaliste, mais voltairienne, c'est-à-dire déchristianisée, et qui n'envisage plus du tout le travail de façon chrétienne, mais simplement le rendement. Quoi.
Exactement, enfin, ce sont tous les excès du capitalisme, où effectivement, l'homme ne compte plus du tout, seul le profit importe, et c'est effectivement contre cette notion que se sont dressés ce qu'on appelait les catholiques sociaux, dans la continuité de l'encyclique du pape, et voilà, on sent bien que Michel de Saint-Pierre est tout à fait dans cette fibre-là. Il est déjà un homme de droite, mais vraiment une droite sociale, voilà, qui a un attachement pour le peuple.
Alors, j'ai une question des auditeurs, c'est une question que je n'avais pas prévu de vous poser, mais j'aime dans cette émission où les auditeurs prennent la parole. Donc, nous allons aller par Sceaux et Gambade, comme Montaigne, presque votre concitoyen, parce que vous venez de Bordeaux. Montaigne dit qu'il écrit ses mémoires comme cela. Dans mon adolescence, dit cet auditeur, je me souviens d'avoir été très ému par le feuilleton L'Accusé. La lecture du roman de Michel de Saint-Pierre, L'Accusé, m'a conforté dans cette émotion.
Eh bien écoutez, je rejoins tout à fait cet auditeur, parce que j'ai moi-même vu, alors que j'étais, et je me dis que parfois mes parents me laissaient regarder peut-être un peu n'importe quoi à la télévision, enfin le film, c'était pas... j'ai vu ce film, ce téléfilm, qui était en feuilleton de 12 ou 14 épisodes, qui passait le soir peut-être à 19h50 par série de 10 minutes, 12 minutes, et je me souviens très bien, enfant, j'étais très jeune, avoir vu ce feuilleton, sans savoir évidemment qu'il était tiré du livre de Michel de Saint-Pierre, sans savoir qui étaient les acteurs, mais je me souviens très bien d'avoir vu ce feuilleton, et un certain nombre de scènes sont toujours restées gravées dans ma mémoire, et lorsque je l'ai revu pour écrire la biographie, eh bien effectivement ces scènes, je ne les avais pas du tout oubliées, et donc le feuilleton est très 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 intéressant, il n'est pas du tout daté, et le livre est un livre absolument magnifique. Moi, c'est vraiment un des romans préféré, un de ceux que je préfère de Michel de Saint-Pierre. On parlera tout à l'heure de ses écrits religieux, mais vraiment dans le roman pur, c'est un roman très touchant. En quelques mots, c'est une femme bafouée, trompée par son mari, qui est absolument un personnage détestable, et excédée alors que son mari lui a retiré les enfants, lui a tendu des pièges, eh bien, elle sort un revolver et elle tue son mari. Et donc, c'est toute à la fois sur la condition, je dirais, juridique des femmes dans les années 70, mais également le monde de la prison, le monde de la justice, le monde de la police, toute la dureté de la prison, notamment pour les femmes. Et Michel de Saint-Pierre décrit cela parfaitement bien, sans jamais sombrer dans le pathos, comme on dit actuellement. Et donc, c'est un très très bon roman, effectivement, que je conseille. Et je pense que peut-être que pour rentrer dans l'œuvre de Michel de Saint-Pierre, commencer par ce roman serait une bonne chose.
Alors, j'ai là une question que j'ai préparée, je veux vous poser, c'est... Est-ce qu'on trouve encore les écrits de Michel de Saint-Pierre ? Est-ce que c'est disponible ou alors, tout est chez les bouquinistes ?
Voilà, malheureusement, les livres ne sont pas réédités, ne sont plus réédités. Peut-être que Via Romana va s'y mettre. Michel de Saint-Pierre est décédé en 1987 et depuis, ces livres n'ont pas été réédités. Donc, on les trouve effectivement chez les bouquinistes, on les trouve sur les quais de la Seine, on les trouve sur Internet. Mais effectivement, ces livres ne sont plus réédités, malheureusement, depuis son décès.
Alors, ce qu'il a fait connaître, ça a été effectivement son ouvrage sur la crise de l'Église. Enfin, alors de façon romanesque, puisque c'est un romancier, mais il dépeint cette crise, ce conflit entre un jeune et un vieux.
Alors, effectivement, alors, on va dire qu'il est vraiment devenu très connu, il est devenu un romancier populaire au bon sens du terme avec Les Aristocrates, qui s'est quand même vendu à 600 000 exemplaires, qui, comme on l'a dit, a été porté à l'écran.
Le film arrive combien de temps après
Un an ou deux ans après, c'est rapide.
C'est déjà un succès et on veut l'adapter
exactement.
Immédiatement.
Voilà, et le film fait 3 millions d'entrées, ce qui était quand même une très bonne chose. Et Michel Saint-Pierre avait donc cette notoriété comme romancier. Il avait écrit La mer à boire, il avait écrit Ce monde ancien. Et effectivement, en 1962, il publie Les nouveaux prêtres, qui est une immersion dans ce qu'on appelait à l'époque la banlieue rouge, ou Michel de Saint-Pierre, qui était sa caractéristique, c'est-à-dire qu'il était romancier, mais avant d'écrire un roman, il allait toujours, je dirais, faire une enquête de terrain. Et là, il va faire cette enquête de terrain dans le monde des prêtres pendant des mois. Il va quasiment s'installer à demeure dans cette banlieue. Il va aller interroger des prêtres, il va interroger des fidèles, il va écouter les sermons, il va lire des tonnes de journaux, bulletins paroissiaux distribués à la sortie de la messe, et il va effectivement, à travers ce roman, dénoncer l'infiltration marxiste dans l'Église de France. On était en plein Vatican II, il y avait ce vent de folie qui allait souffler. Et suite à la publication de ce roman, eh bien, ça va être un véritable tir de barrage contre Michel de Saint-Pierre, venant de la presse La Croix, Témoignage chrétien. Témoignage chrétien où Michel de Saint-Pierre avait pourtant été journaliste pendant des années au lendemain de la guerre. Et Michel de Saint-Pierre, ça va vraiment être... Il va y avoir des procès, enfin voilà, il va y avoir des attaques très très virulentes contre Michel de Saint-Pierre, qui va être très surpris et très blessé des attaques qu'il va subir. Et Jean Madiran a rapporté qu'effectivement, Michel de Saint-Pierre ne s'attendait absolument pas à une telle riposte de la presse, je dirais, de gauche, et de la presse progressiste, et il en sera effectivement meurtri.
Et vous dites donc effectivement, 62, c'est le début du concile, qui va se terminer en 65. C'est aussi la période des prêtres ouvriers, l'expérience que le Vatican a demandé de cesser, mais il n'empêche qu'il y avait quantité de prêtres qui avaient défroqué, si j'ose dire, qui avaient pris le bleu de travail et qui après ont même pris femme.
Alors effectivement, mais c'est toute l'histoire du livre, effectivement, où nous avons un jeune prêtre, l'abbé de Lens, qui arrive dans cette paroisse de la région parisienne, jeune prêtre qui, lui, célèbre, est toujours très traditionnel, enfin voilà, c'est, je dirais, un prêtre comme il en a toujours existé, et puis il y a un père curé qui est là, bah, qui lui est un vieil homme qui ne dirige plus grand-chose, et puis il a deux vicaires qui, eux, sont totalement acquis à la nouvelle pastorale. Pour eux, effectivement, le prêtre est maintenant un syndicaliste hein, qui doit convertir les masses ouvrières, mais qui les convertit davantage avec le capital Marx qu'avec l'évangile. Et donc, c'est cette confrontation entre, je dirais, le prêtre traditionnel, la belle figure du prêtre, et ses nouveaux prêtres. Mais il faut dire que Michel de Saint-Pierre peut être assez dur vis-à-vis d'eux, mais parfois il ne leur dénie pas une certaine, une certaine loyauté, une certaine franchise. Ils pensent faire le bien, ils ne comprennent pas toujours qu'ils sont manipulés, notamment par le Parti communiste à l'époque. Donc c'est un livre polémique, hein, c'est incontestable, mais qui n'est pas du tout un livre, je dirais, totalement à charge contre ces nouveaux prêtres, haineux, agressifs, pas du tout, ce n'est pas du tout le ton, et ce n'était pas d'ailleurs du tout la personnalité de Michel de Saint-Pierre.
Et vous dites qu'il fait une enquête avant d'écrire, et il s'immerge, il essaye de capter...
Alors, il a fait ça pour tous ses romans, vous voyez, pour l'accusé, eh bien, il est allé voir des magistrats, il est allé voir les prisons, il a visité, il a également écrit un très beau livre en 1982 qui s'appelait Docteur Erickson, où le héros principal est un médecin, eh bien là, c'est pareil, il est allé à la faculté de médecine, il est allé interviewer des médecins, il a écrit un roman policier, Le double crime de l'impasse Salomon, eh bien, il est allé au Quai des Orfèvres. Voilà. À chaque fois, il mène un travail, une enquête. Et puis, une fois qu'il a réalisé cette enquête, qu'il s'est documenté, qu'il a compris, qu'il s'est inspiré du sujet dont il va traiter, eh bien, il se met à sa table de travail et il écrit.
Alors, comment expliquez-vous qu'avec un tel succès pour les aristocrates, et aussi avec une telle presse, bonne ou mauvaise, mais peu importe, pour la crise de l'Église, les prêtres, comment expliquez-vous que, alors qu'il est mort dans les années 80, il soit maintenant en purgatoire, comme on dit, purgatoire littéraire, c'est-à-dire ceux dont on ne parle plus et dont vous venez de dire que ces ouvrages
alors,
ne sont plus édités.
C'est vrai comment que non seulement il était un auteur qui publiait beaucoup, qui avec des très gros tirages, qui avait ses entrées au Figaro, qui a fait énormément de journalisme.
Chez Pivot.
Qui était effectivement chez Bernard Pivot. Donc il était à la fois oui, très éclectique parce qu'il a été à présent dès le début de présent, mais tout en étant à présent, il continuait d'écrire dans le Figaro. Il a également été reporter pour Minute. Donc voilà, il y avait une véritable assise. Alors effectivement, il était très combattu, notamment lorsqu'il a publié Les Nouveaux Prêtres, lorsqu'il s'était engagé en 1963 dans son livre Plaidoyer pour l'amnistie en faveur des prisonniers d'Algérie française. Donc il a effectivement mené un combat politique, mais il était avant tout écrivain, il était avant tout romancier. Alors effectivement, il est, après son décès, ce qui arrive malheureusement à de très nombreux écrivains, eh bien, ces écrivains ne survivent pas en quelque sorte à leur propre mort. Hein, et c'est une période de purgatoire. Donc, je pense qu'effectivement, il y a à cela plusieurs raisons. Bon, bah, c'est vrai qu'il a quand même été un écrivain engagé sur le plan politique, mais surtout sur le plan religieux. Peut-être qu'effectivement, l'époque a voulu tourner la page. Parce que ce qui est intéressant, c'est quand on se replonge dans son œuvre, quand on se replonge dans Les Nouveaux Prêtres, quand on se replonge dans la suite qu'il a publiée, La Passion de l'abbé de Lens, eh bien, on se dit que finalement, il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas tellement changé, on retrouve quand même un certain nombre de choses et peut-être que certains ont intérêt à ce qu'on ne parle plus de cela.
Alors, il y a par ailleurs un ouvrage qu'il écrit dans cette célèbre collection où Mgr Lefebvre lui-même a fait paraître un ouvrage, c'était La Lettre Ouverte. Vous vous souvenez, c'était Albin Michel qui avait cette collection et La Lettre Ouverte, Mgr Lefebvre a fait paraître, lui, La Lettre Ouverte au catholique perplexe. Mais lui, c'était sur la question de l'éducation, de l'école, de l'enseignement et voilà. L'école libre. Ça me semble quand même encore un peu actuel.
Alors, tout à fait. Alors, effectivement, c'était à l'époque de la réforme Savary, en 1983-1984. Et effectivement, Michel Saint-Pierre publie cette lettre ouverte aux assassins de l'école libre. Alors là, c'était la collection qui voulait ça. Hein. C'était le côté assez pamphlétaire. Même,
c'est ça.
Voilà, même l'ouvrage de Mgr Lefebvre, sa lettre au catholique perplexe. Jean-Claude Martinez avait publié également, ce qui avait été un best-seller, sa lettre ouverte aux contribuables. Voilà, donc il y avait un ton très très particulier dans cette collection. Et donc Michel de Saint-Pierre publie cet ouvrage. Et ce qui est intéressant, c'est de relire ses articles dans Présent, où où déjà, on, par rapport à l'école libre, on avait un épiscopat très frileux, qui ne voulait pas vraiment rentrer en conflit avec le gouvernement à l'époque de Pierre Mauroy, avec Alain Savary comme ministre de l'Éducation nationale. Et Michel de Saint-Pierre, dès le début, dès l'année 1983, dit on n'arrivera pas à sauver ou à défendre l'école libre si effectivement il n'y a pas une levée en masse et si jamais on ne descend pas dans la rue. Et effectivement, pendant un an et demi, le clergé, il y avait à l'époque le père Guiberto, je ne sais pas si vous vous souvenez, le chanoine Guiberto, qui parlait au nom de l'école libre, va freiner des quatre fers pour éviter les grandes manifestations de masse. Et puis finalement, il va y avoir la grande manifestation du 24 juin 1984, avec 1,5 million, 2 millions de personnes à Paris, qui sera une victoire, mais peut-être une victoire à la Pyrrhus, parce que malheureusement, ce que la gauche n'avait pas réussi à l'époque à avoir en passant en force, eh bien, l'aura de manière beaucoup plus diplomatique. Et finalement, la réforme Savary a été enterrée en 84, mais elle est ressuscitée sous un autre nom quelques mois ou quelques années plus tard.
Alors, vous parlez de son combat religieux, crise dans l'Église, le clergé marxisé. Il a fondé le mouvement Credo. Et là, j'ai envie de vous dire, ça fait partie du côté très paradoxal du personnage. Il y a aussi une grande amitié pour Israël.
Alors, effectivement, il était très, 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 très pro-israélien. Ouais. Il était très ami avec un certain nombre de personnalités juives. Ouais. Mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Hein. Nous étions au lendemain de la guerre d'Algérie. Finalement, Israël, c'était un petit peu l'État qui réussissait à combattre et à gagner contre, on va dire, les succédanés du FLN. C'était l'OLP, mais finalement, pour Israël, l'OLP, c'était un petit peu l'équivalent du FLN par rapport aux défenseurs de l'Algérie française. Et effectivement, Michel de Saint-Pierre était tout à fait favorable à l'État d'Israël, comme en 1967, lors de la guerre des six jours, Tixier-Vignancourt avait fait cause pour Israël, même Rebatté dans Rivarol applaudissait Israël, même François Brignot dans Minute défendait Israël. Donc effectivement, Michel Saint-Pierre se rattachait à ce courant sioniste d'une partie de la droite française, et il a écrit un très beau livre qui s'appelle « Je reviendrai sur les ailes de l'aigle », qui est un très très beau livre consacré à Israël, et c'est un très bon roman également, qui se lit avec plaisir. Voilà. Qui effectivement ne satisfera peut-être pas tout le monde, mais qui est quand même, sur le plan romanesque, un très beau livre.
Alors, je vais demander à Guylaine de bien vouloir dire qui nous avons la joie de recevoir ce soir, pour quel livre, et je pense que les auditeurs de Radio Courtoisie voudront se transformer en lecteurs de Thierry Bouclier, puisque c'est de lui dont il s'agit, et vous leur donnez l'occasion. Allez-y, Guylaine.
Nous écoutons Thierry Bouclier à propos de son livre « Michel de Saint-Pierre, une biographie » paru chez Via Romana et dont il fera une dédicace à la librairie Duquesne Diffusion le samedi 20 juin de 14h à 18h. Duquesne Diffusion se trouve avenue Duquesne, dans le 7e arrondissement de Paris.
Avenue Duquesne. Et l'ouvrage, combien de pages et quel prix, s'il vous plaît ?
Il est de 322 pages et au prix de 24 euros.
C'est donné. D'autant plus qu'il y a un cahier. Alors, je ne sais pas si c'est Rémi Perrin qui vous a donné toutes les photos. Non, je crois que vous avez aussi approché la famille. Il y a des photos. Il y en a une quand même. Arletty, Michel de Saint-Pierre.
Oui, mais effectivement, Michel de Saint-Pierre, effectivement, entretenait des relations avec un certain nombre de personnes, effectivement, dont Arletty, évidemment, Pierre Freinet et Maurice René pour les aristocrates, mais effectivement, il avait des liens. Il y a également, en 1986, il s'était vu remettre un prix pour un ouvrage de poésie par Jacques Chirac. Il était également très proche du président Pompidou, puisqu'ils avaient travaillé dans la même entreprise. C'était tous les deux lettrés. Donc, voilà, Michel de Saint-Pierre entretenait des relations cordiales, amicales, avec un certain nombre de personnalités du monde de la chanson, du cinéma ou de la politique.
Et là, vous avez des photos de famille, quand même, parce que là, on le voit sur un pique-nique avec ses enfants,
avec ses enfants
et son épouse. Donc, ça, vous avez pris ces photos dans l'album de famille.
Eh bien, Isaure de Saint-Pierre, donc une des filles de Michel de Saint-Pierre, était extrêmement gentille avec moi. Voilà, elle m'a communiqué un certain nombre de documents, d'informations sur ce qu'était la vie de la famille Saint-Pierre. Parce qu'effectivement, il y a l'écrivain, il y a l'homme engagé, mais effectivement, il y a aussi le mari, il y a le père de famille, il y a l'homme en lui-même. Et bien évidemment, pour essayer de bien sentir ce qu'était Michel de Saint-Pierre sur le plan humain, eh bien, rien ne vaut le témoignage de sa fille qui, bien évidemment, est en grande admiration par rapport à son père, et je le comprends tout à fait, et qui était tout à fait charmante avec moi pour m'aider à rédiger cet ouvrage.
Et en particulier, une photo de Michel de Saint-Pierre jouant au tennis avec Patrick de Beaucaron.
Oui.
Une photo de 59 à Villers-sur-Mer. Je laisse aux auditeurs le soin de découvrir. C'est à la page 4 du cahier de photos.
Donc ça, c'était aussi une autre caractéristique de Michel de Saint-Pierre. C'était un très grand joueur de tennis. Il a joué pendant très très longtemps. Il a été classé. Et c'était véritablement sa passion.
Alors, vous nous disiez tout à l'heure, le premier livre, peut-être qu'on ne s'y attendait pas, c'est L'Accusé. C'est ça, il faut commencer peut-être par ça. Donnez quelques conseils aux auditeurs qui justement voudraient, une fois qu'ils auront lu votre ouvrage Michel de Saint-Pierre, une biographie chez Via Romana, qui voudront entrer dans l'œuvre elle-même.
Alors, effectivement, je conseille L'Accusé. Je conseille également La mer à boire, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est en quelque sorte le récit de sa vie de marin, qui est un très très beau livre, un très beau roman. Pour ceux qui s'intéressent aux questions religieuses, et notamment qui sont très actuelles, bien là, je recommande Les Nouveaux Prêtres, ainsi que La Passion de l'Abbé de Lens. Vraiment, La Passion de l'Abbé de Lens, vous avez de très très belles pages sur la messe, sur ce qu'est la messe, sur la beauté de la messe, sur la profondeur de la messe. Là, vous avez vraiment des pages magnifiques. Donc, Les Nouveaux Prêtres, La Passion de l'Abbé de Lens, L'Accusé, La Mer à boire, la très belle biographie de Charette. Il a fait une très belle biographie de Charette. Donc, pour ceux qui sont allés voir le film il y a 3 ans, eh bien, lisez cette biographie qui se lit comme un roman, le roman de Charette, qui se lit très, très bien. Et puis, un très beau livre, Les Cavaliers du Velde, qui raconte toute l'épopée des Français à la fin du XVIIIe siècle en Afrique du Sud, voilà, après la révocation de l'édit de Nantes, quand les Huguenots, etc., sont partis en Afrique du Sud. Et on voit bien qu'effectivement, ce sont les Européens qui ont fait ce pays, et c'est un très beau roman, voilà, Les Cavaliers du Velde.
Donc ça fait déjà quelques lectures pour cet été. D'abord, on commence bien sûr par votre ouvrage, et une fois qu'on a lu Michel de Saint-Pierre, une biographie de Thierry Bouclier, on peut se lancer dans Michel de Saint-Pierre,
dans son œuvre,
une bonne introduction.
Exactement.
Et vous-même, c'était un auteur qui était dans la bibliothèque de vos parents. Qu'est-ce qui vous a donné envie, l'idée de lui consacrer
Alors, une moi, biographie. Je l'avais lu. Alors, comment ces livres me sont-ils arrivés entre les mains, je ne me souviens plus, mais j'avais lu Michel de Saint-Pierre lorsque j'étais étudiant, voilà, lorsque j'avais 20 ans, 21 ans, 22 ans, et donc j'avais gardé le souvenir de ces livres. J'avais vu, comme je vous l'ai dit, enfant, L'Accusé, voilà, et j'ai compris bien après qu'effectivement c'était tiré du livre de Michel de Saint-Pierre. Donc dans l'ordre chronologique, j'ai d'abord vu le feuilleton alors que j'étais enfant, et j'ai lu le livre alors que j'étais jeune homme. Donc voilà, donc c'est vrai que j'avais vraiment gardé ce souvenir de Michel de Saint-Pierre. Je regrettais qu'effectivement on n'en parle plus du tout, qu'il ne soit pas réédité, et donc je me suis dit peut-être qu'effectivement en écrivant cette biographie, ça permettra à Michel de Saint-Pierre de sortir
du purgatoire littéraire
et peut-être de donner envie à de jeunes lecteurs de le lire, de le découvrir, à de plus anciens de le redécouvrir, et puis peut-être à des éditeurs de le rééditer.
Alors vous qui vous êtes donné au fond une mission, sortir du purgatoire tous les auteurs qui s'y trouvent, avec Chateaubriand c'était le cas la dernière fois, je dis bien que c'est Alphonse, ce n'est pas René, René n'a pas besoin d'être sorti, quel est le prochain? Quel est le prochain auteur que vous voulez sortir du purgatoire littéraire?
Là, pour l'instant, j'ai quelques idées, mais je reviendrai vous en parler.
D'accord, très bien. Peut-être avez-vous alors une idée de roman policier, parce que je sais aussi que vous vous intéressez...
Alors, oui, effectivement, j'ai publié 3 romans policiers aux éditions Audaïzarn. Donc, effectivement, là, oui, il y a quelques projets effectivement, de romans policiers.
Et est-ce que ça va se passer dans le domaine qui est le vôtre, c'est-à-dire des escroqueries, etc. Puisque vous êtes fiscaliste, donc pour moi, vous devez connaître ces choses-là.
Alors, le roman policier se passe toujours un petit peu dans cette atmosphère. Donc, effectivement, l'intérêt, on avait déjà parlé des éditions Audaïzarn, hormis des romans policiers classiques, c'est effectivement ce personnage qui a été créé par l'éditeur Julien Ardan, qui est justicier la nuit et qui est libraire le jour. Il tient une librairie dans le 2e arrondissement de Paris qui s'appelle Les Décombres. Julien Ardan, voilà, dit le hussard, par référence évidemment au hussard de Roger Nimier. Et donc toute la particularité de cette collection du Lys Noir aux éditions Audaïzarn, c'est qu'il y a ce personnage qui a été créé, il y a un certain nombre de règles à respecter, et ensuite chaque auteur s'approprie le personnage et lui fait vivre les aventure qu'il souhaite, lui donne sa sensibilité particulière. Donc il y a eu à peu près, je crois, une dizaine de hussards qui ont été publiés sous la plume de 10 auteurs différents. Et donc, bien évidemment, chaque auteur a une sensibilité particulière et le hussard passe d'une main de l'un à la main de l'autre et change à chaque fois. Mais à chaque fois, les 8 ou 10 règles doivent être respectées.
Est-ce que justement, à cette séance de dédicace, on trouvera, bien évidemment, le livre dont nous venons de parler, Michel de Saint-Pierre, une biographie de Thierry Bouclier, mais est-ce qu'on peut trouver vos autres romans? Est-ce qu'on peut prendre en particulier vos romans policiers?
Alors, les romans policiers, ils seront. Je pense que la biographie que j'ai faite de Roger Nimier aux éditions LIF, qui a pris la suite des éditions Pardès dans la collection Qui suis-je, cette biographie de Roger Nimier y sera également. Je pense qu'il y aura également le livre que j'avais écrit sur la violence de la gauche de 1789 à nos jours aux éditions de la Nouvelle Librairie. Donc voilà, il y aura Michel de Saint-Pierre et puis un certain nombre d'autres ouvrages.
Alors Guylaine, il faut que vous nous redonniez le lieu, la date et l'heure.
Donc Thierry Bouclier dédicacera ses ouvrages à la librairie Duquesne Diffusion, 27 avenue Duquesne, Paris 7e, le samedi 20 juin de 14h à 18h.
Un grand merci.
Merci Monsieur l'Abbé.
À très bientôt.
À très bientôt. Merci. Au revoir Monsieur l'Abbé.
Eh bien, j'ai la chance de recevoir maintenant un autre avocat, Romain Icard, mais ça n'est pas à ce titre-là, d'ailleurs pas plus que c'était au titre d'avocat que je recevais Thierry Bouclier, c'est en tant qu'écrivain, biographe. Vous, Romain, c'est parce que vous vous occupez des jeunes pros, c'est-à-dire des jeunes professionnels de Saint-Nicolas-du-Chardonnay, et vous êtes accompagné de Gabrielle Perrin, qui est elle-même membre de ces jeunes pros. Alors, qu'est-ce que c'est plaidez la cause des jeunes pros, s'il vous plaît, Maître Romain Perrin, Maître Romain Icard.
Bonsoir Monsieur l'Abbé, merci beaucoup pour votre invitation. Les jeunes pros de Saint-Nicolas-du-Chardonnay, c'est donc une des multiples associations qui parsèment cette belle paroisse de Saint-Nicolas-du-Chardonnay et qui est ouverte à tous les jeunes professionnels, donc ce sont les jeunes, on va dire, qui vont de la fin d'études jusqu'à la trentaine passée, en général on dit 23 à 33 ans. Donc une association ouverte à tous ces jeunes et qui organise donc différents événements tout au long de l'année, majoritairement des conférences une fois par mois, mais aussi des bars, des apéritifs, des visites culturelles, des pèlerinages, des retraites spirituelles, différents dîners tout au long de l'année au fil des fêtes, donc Chandeleur, dîner de Noël, etc., et aussi un week-end annuel, fin juin, un week-end de festivités entre jeunes.
On est à la veille alors de ces deux jours. Ça a lieu où exactement et quand? C'est le prochain week-end que vous annoncez là?
Alors le week-end jeune pro aura lieu donc à la Placelière, au château de la Placelière, c'est près de Nantes, et il se tiendra du 12 au 14 juin 2026. Et donc, au programme de ce week-end, sont des activités en équipe, beaucoup de rencontres, des conférences, une dégustation de vin qui, je suis sûr, rassasiera tous les invités, et un méchoui sous les étoiles. Voilà. Donc, beaucoup d'activités à venir pour clôturer cette année qui a été riche en événements.
C'est bien. Alors, puisque nous avons la chance d'avoir un membre de ces jeunes pros, Gabriel Perrin, vous, qu'est-ce qui vous a fait venir avec enthousiasme aux jeunes pros? Pourquoi est-ce que vous êtes tout de suite dit « c'est pour moi »
Moi, je suis arrivée aux jeunes pros il y a 2 ans Et en fait, je venais de terminer. Alors, je n'avais pas vraiment fini mes études, mais comme j'étais en alternance, je commençais à travailler. J'arrivais sur le bout de mon parcours dans le scoutisme et je cherchais un autre moyen de rester en contact avec des gens, d'avoir des activités organisées, cadrées, etc. Toujours sous la chape de l'abbé Framand qui s'occupe de l'aumônerie du groupe. Et donc, étant paroissienne de Saint-Nicolas, ce groupe des jeunes pros s'est présenté à moi et j'en suis ravie.
Donc vous serez à la place Solière pour boire les paroles de l'abbé Framand et éventuellement aussi la dégustation que nous a annoncée Romain, c'est ça ?
Oui.
C'est ça. Alors, vous disiez, les jeunes, ça n'est pas uniquement des juristes, c'est vraiment pour des jeunes professionnels, plus sur des critères d'âge, mais on peut être artisan, on peut être profession libérale, c'est ouvert véritablement à toutes les professions.
Alors c'est en effet ouvert à toutes les professions. Donc à Saint-Nicolas, il y a différents groupes de jeunes, il y a le groupe des étudiants, et je dirais que les jeunes pros, c'est un peu la continuité logique des groupes de scouts et des groupes d'étudiants. Le groupe de jeunes pros, c'est un peu cette continuité-là. Et donc, c'est donc à la fois un groupe de jeunes où on fait des activités, mais en effet, comme vous le soulignez, c'est aussi un réseau professionnel, puisque tous les jeunes pros qui sont présents donc ont des métiers évidemment divers et variés. Il y a des artisans, il y a des avocats, des ingénieurs,
des infirmières,
il y en a un certain nombre. Et donc, c'est aussi l'occasion de dans cette grande ville de Paris, de ne pas être un catholique seul, mais d'intégrer un groupe d'amis, un groupe professionnel, et donc de mener sa vie parisienne de la manière la plus correcte qui soit.
Et sur quel rythme, à peu près ? Vous parliez surtout de conférences, il faudrait que vous nous disiez sur quel rythme, c'est-à-dire c'est quoi, toutes les semaines, une conférence ?
Alors, de façon générale, on organise deux événements par mois, et dans ces deux événements, il y a toujours une conférence. Ce qui fait qu'il y a une conférence par mois qui est organisée tout au long de l'année, et celle-ci s'accompagne dans les 15 jours qui suivent, de manière générale, d'un autre événement. Ça peut être un bar, ça peut être un apéritif à l'extérieur, ça peut être un dîner, une sortie culturelle, etc. Mais donc l'événement principal, les événements principaux que nous organisons sont des conférences tout au long de l'année. Et ces conférences, on essaye de trouver des sujets très variés. On essaye d'embrasser le sujet politique, le sujet historique, le sujet philosophique, le sujet artistique, pour pouvoir aborder comme ça tous les domaines au cours de l'année et donc satisfaire aussi tous les appétits intellectuels des jeunes pros.
Alors, ce qu'il y a de paradoxal, c'est que vous êtes les jeunes pros de Saint-Nicolas et que vos conférences n'ont pas lieu à Saint-Nicolas.
Alors, c'est en effet très paradoxal, puisque nos conférences ont lieu à Notre-Dame de Consolation, donc rue Jean Goujon.
Il y a une grande salle et c'est peut-être pratique, d'autant plus qu'il n'y a pas qu'une conférence. On boit les paroles du conférencier, mais on mange quand même un petit quelque chose avant et un petit quelque chose après, non ?
Et voilà, vous soulignez quelque chose de très important, c'est qu'après chaque conférence, il y a un buffet qui est organisé, qui dure une heure et demie. Un buffet, donc avec des boissons, de quoi se sustenter. Et ce qui permet aussi de favoriser les rencontres entre les jeunes pros. Parce que les jeunes pros s'organisent autour de trois piliers, donc la prière, l'amitié et la formation. Donc des moments de prière, nous en avons. Des moments de formation, nous en avons aussi à travers les conférences. Et les moments d'amitié, justement, c'est à travers ces buffets, à travers aussi les apéritifs qu'on organise.
Alors, je vais demander à Gabriel, est-ce que vous-même, donc vous y êtes depuis 2 ans, est-ce que vous pouvez nous donner quelques idées des conférenciers qui sont intervenus et très simplement ceux qui vous ont le plus intéressé ?
Mais comme le disait Romain à l'instant, les sujets sont très variés. Alors on a eu récemment une conférence sur la transidentité par Aude Mirkovitch, on a eu les sacres de la fraternité. On a eu l'histoire de la chapelle du Bazar de la Charité, qui est en fait l'endroit où se tiennent nos conférences. La guerre artistique en France par Aude de Kéros. Bref, tout un, tout un panel de thématiques bien différentes.
Vous voulez dire pas un panel, un éventail, sans aucun doute, voire un échantillon.
Exactement.
Ça vous a coûté 1 euro, merci.
Encore une fois. Et donc, non, mais c'est toujours, toujours aussi intéressant parce que ça peut être des sujets qui nous touchent personnellement par affinité personnelle, quoi. Et d'autres sujets qu'on peut découvrir complètement, sur lesquels on ne s'était jamais penché. Et donc, on découvre, et les conférenciers sont toujours très, très pédagogues, amènent très bien les sujets, et tout le monde y trouve son compte. Oui. Qu'on soit intéressé à l'origine par le sujet ou qu'on le découvre sur le moment, quoi.
D'autant plus, comme vous le soulignez tout à l'heure, ce ne sont pas que des... professeurs qui assistent à ces conférences, il y a des artisans, des infirmières, des juristes comme vous, peut-être aussi certainement des enseignants, mais il faut s'adapter à tout le monde et tout le monde doit pouvoir se sentir concerné. Enfin, ça n'est pas fait pour un public de spécialistes, c'est pas un congrès.
Oui, exactement.
Et ça permet effectivement d'amener. Vous avez une salle assez grande, je la vois bien. Vous arrivez à faire le plein à chaque fois.
Oui, on arrive à faire le plein à chaque fois. Donc, on a des scores en nette hausse depuis plusieurs années. Mais c'est vrai que de manière générale, je pense que sur le groupe des jeunes pros, je dirais qu'à Saint-Nicolas, il y a environ 400 à 500 jeunes pros qui sont concernés. Et à chaque conférence, on a en moyenne 100, 150 personnes. Donc, ce qui est quand même, je trouve, un taux de conversion, si vous me permettez ce jargon, ouais. un taux de conversion assez élevé.
Et vous parliez tout à l'heure de la solitude de ces jeunes à Paris, parce que certains viennent de province, sont là que pour des raisons, parce qu'ils finissent leurs études ou parce qu'ils sont là pour des raisons professionnelles. Et c'est vrai qu'on peut être très isolé dans une grande ville. C'est un petit peu pour pallier cet inconvénient.
Mais en effet... C'est vrai qu'à Saint-Nicolas, chaque année, il y a énormément de jeunes qui arrivent. Soit des étudiants, et donc ils ont le cercle des étudiants pour rencontrer du monde. Soit des jeunes pros, et donc il y en a qui arrivent à Paris, il y en a d'autres qui se convertissent à Paris, qui ne connaissent pas forcément le monde de la tradition, qui peuvent être aussi impressionnés par le parvis de Saint-Nicolas, où tout le monde a l'air de se connaître, et ça peut être difficile d'intégrer des groupes. Et donc les jeunes pros, c'est un excellent moyen, justement, c'est un moyen dédié à ça aussi, c'est... permettre ce brassage un peu des fidèles et des jeunes à Saint-Nicolas, les faire rencontrer du monde, proposer des sorties, créer des groupes d'amis. Et il y a énormément de personnes qui se sont fait leur groupe d'amis, qui ont rencontré aussi la l'âme sœur aux jeunes pros, même si ce n'est pas du tout la vocation première du groupe, mais ça fait partie des conséquences saines de ce genre de groupe.
Ne me dites pas que ce sont les dommages collatéraux.
C'est pas un dommage collatéral. Mais...
Au contraire.
C'est une conséquence heureuse.
Alors, la question que je voulais vous poser, très concrète, très pratique, c'est comment est-ce qu'on entre au jeune pro? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une cotisation? Il faut se signaler à quelqu'un, à Saint-Nicolas? Comment ça se passe? Ou alors on vient comme ça, le nez au vent, et on se dit, tiens, il y a une conférence, ça m'intéresse, je viens.
Alors, pour venir, il faut déjà avoir connaissance des événements qu'on organise. Et donc, on a différents canaux de communication pour faire parler de nos événements. Donc, il y a un canal WhatsApp qui existe où on communique, mais il y a aussi une mail list. Donc, vous pouvez vous inscrire ou nous écrire par mail. Donc, je vais vous donner notre adresse mail. C'est contact@jeune. Au pluriel, pro75.fr. contact@jeuneaupluriel.pro75.fr.
Et tout attaché.
Tout attaché,
jeune,
sans tirer.
pro75.fr.
Donc nous écrivez et on vous rajoutera à notre mail list et donc vous serez informé de tous les événements qu'on organise et vous pourrez ensuite vous inscrire sur des liens d'inscription à nos événements. Donc les événements sont. Les conférences sont payantes parce qu'évidemment, on a des frais occasionnés par les invités, mais aussi pour le buffet qu'on propose. Mais on essaye volontairement de garder des prix modestes pour que tout le monde puisse venir Et d'autres événements sont parfaitement gratuits. Donc là, vous pouvez venir et vous serez accueillis.
C'est bien pour des jeunes pros,
sourire.
Encore impécunieux. C'est pas pour des avocats opulents qui viennent en Ferrari.
Je ne vois pas de quoi vous voulez parler, monsieur Lavé.
Alors, la question, bien sûr, que tout le monde se pose, et je vais la poser aussi, c'est bien. Ce sont les jeunes pros de Saint-Nicolas. Donc, si vous n'êtes pas paroissien de Saint-Nicolas, vous n'avez rien à faire dans cette association informelle, parce qu'au fond, c'est pas une, il n'y a pas de cotisation, c'est pas une association loi 1900. Non, ça va, on peut venir comme ça, mais c'est réservé aux gens qui sont paroissiens réguliers de Saint-Nicolas, catholiques, attachés à la tradition. Il n'est pas question d'amener un ami qui se poserait des questions, par exemple.
Et ben c'est justement tout le contraire. Donc, les jeunes pros de Saint-Nicolas sont ouverts à tous. Donc, que vous soyez paroissien de Saint-Nicolas ou non, que vous soyez catholique ou non, mais désireux de rencontrer justement ces jeunes catholiques de Saint-Nicolas, vous êtes le bienvenu aux jeunes pros. Vous pouvez venir et nous, justement, à travers donc, l'équipe organisatrice, on se fera un plaisir de vous rencontrer, de vous présenter des personnes qui pourraient avoir votre métier ou des métiers équivalents ou qui pourraient, avec qui ça pourrait être intéressant que vous puissiez discuter. Mais donc, c'est vraiment ouvert à tous. On a de belles histoires de conversion qui sont passées par les jeunes pros. Il suffit qu'un ami fasse venir un de ses amis qui ne connaît pas la foi, qui ne connaît pas la tradition. Et puis, il intègre le groupe des jeunes pros. Il découvre un peu ce que c'est que cette jeunesse catholique engagée. Et puis c'est le coup de foudre, et donc il revient, et puis il commence à fréquenter Saint-Nicolas, etc. C'est pas un prérequis, on est ouvert à tout le monde, mais il peut se passer de belles choses, de belles conversions par les jeunes pros.
Alors, je vais demander à Gabriel, vous nous avez parlé des conférences, c'est vrai, mais il y avait aussi des visites culturelles, je vois, même des pèlerinages. Vous pouvez nous dire un petit peu de quoi il s'agit? Enfin, vous ne venez pas qu'aux dégustations il y a aussi visite culturelle, quand vous visitez des musées, des expositions, vous avez aussi des pèlerinages, où est-ce que vous allez, comment est-ce que ça se passe?
Eh bien, cette année, par exemple, on a fait un pèlerinage à Saint-Sulpice de Favière, qui est un lieu situé en Essonne. Donc, pour rendre la chose facile pour tout le monde, c'était un lieu qu'on a pu rejoindre en RER depuis Paris facilement. La marche a duré toute la journée, on était accompagnés par Monsieur l'abbé. Et l'idée, c'est vraiment de consolider les liens entre ces jeunes catholiques, tout en leur proposant, comme vous le disiez à l'instant, pas seulement des activités d'apéro et de bar qui sont très sympathiques et essentielles aussi, mais des activités plus profondes. Et puis comme on est attaché à une paroisse, on est attaché à une fraternité, à une tradition, de pouvoir faire vivre ça et que ça ne reste pas seulement cantonné à la messe du dimanche. Il y a aussi les retraites qui sont organisées. Une à
Paris-le-Monial.
À Vézelay, l'année passée, que je n'ai pas pu rejoindre, comme vous pouvez vous en douter, mais qui pendant 2 jours permet encore une fois à ces jeunes qui n'ont pas forcément toujours... qui ne prennent pas toujours le temps d'une vraie retraite d'une semaine, de Saint-Ignace, etc., d'avoir quand même un week-end un peu retranché avec des méditations prêchées par l'abbé Framant. Et donc de lier un peu tout ça, la vie professionnelle et en même temps nos aspirations plus nobles dont on ne se donne pas toujours les moyens, quoi.
Alors là, dans l'immédiat, les prochaines activités, donc il y a ces 3 jours, au fond c'est du côté de la Bretagne là que vous allez, la Placelière, c'est même Nantes, enfin c'est la Bretagne Sud, donc c'est iodé, ça va être 3 jours iodé. Qu'est-ce que vous avez comme autre activité? Non pas de ce que vous avez fait, vous nous avez dit que vous avez reçu d'ailleurs des gens que nous connaissons, Aude Mirkovic qui est juriste comme vous, je vois bien aussi Nelly Ducret que j'ai reçue ici pour le Bazar de la Charité puisqu'elle préside à l'association, au destiné de l'association des descendants de victimes, vous avez reçu Aude de Kéros qui est ici chez elle puisqu'elle a une émission, d'ailleurs vous aviez aussi reçu il y a pas mal d'années Charlotte Dornella, je me souviens, qui oui, était intervenue. Mais alors, qu'est-ce que vous avez comme activité hormis la Blasselière, là, dans cette fin juin, quelle est la prochaine conférence? Ou alors, il ne se passe plus rien et on se retrouve qu'en septembre.
Alors, l'actualité n'est pas très, très chaude hein, pour les jeunes pros, parce qu'on termine cette année au mois de juin. Il faut s'imaginer que les activités ont lieu au cours de l'année scolaire, donc de septembre à juin. Là, il nous reste donc ce week-end jeune pro qui arrive très prochainement, donc du 12 au 14 ouais. juin. Et ensuite, il y aura un apéritif de fin d'année, ce sera Place Dauphine. Apéritif de fin d'année en extérieur avec de la pétanque, du molky, enfin voilà, de quoi s'amuser sainement pour clôturer cette belle année de conférence. Et les activités reprendront en septembre 2026 avec une conférence donc traditionnelle, je dirais.
Et dont vous n'avez pas encore le sujet, parce que là, au fond, vous essayez un petit peu de coller à l'actualité les sujets qui peuvent intéresser, et quelle que soit justement leur profession, des questions de société, des questions qui intéressent tout le monde. Personne ne vous dit « Ah non, pour cette conférence, c'est pas pour moi, je viens pas ».
Non. Oui, non, mais tout à fait, on essaye vraiment de coller à l'actualité. Là, c'est la question que vous avez citée. Aude Mirkovic, mais donc la question de la transidentité, elle est évidemment très actuelle en ces temps. La question des sacres aussi, la fraternité Saint-Pédis, ça a été très actuel. On a organisé cette conférence au mois d'avril et elle a eu un succès retentissant. Il y avait plus de 200 personnes qui étaient présentes, etc. Donc on essaye de suivre l'actualité et parfois de prendre de la distance pour plutôt former les esprits avec des questions plus philosophiques. Une conférence moi, que j'avais beaucoup aimée cette année, qui était celle d'Arnaud Jaïr, conférence sur la philosophie de la Terre à l'école de Gustave Thibon. Donc là, une approche beaucoup plus philosophique des choses, et c'était le lien entre la Terre, l'enracinement géographique, je dirais, et même l'agriculture, le lien entre l'agriculture et la philosophie. Donc,
et il en parlait en connaissance de cause, parce qu'il est lui-même professeur de philosophie.
Exactement. Et agriculteur.
Voilà, je ne dirais pas évidemment gentleman farmer, parce que ça n'existe pas à De Courtoisie, mais il a la responsabilité d'une exploitation, donc il connaît ça très très bien. Donc ça permet de voir... Et bien, je vois d'ailleurs, c'est amusant, il s'est sauvé, mais on a une fiche sur lui. Je vois que vous aviez aussi reçu Maître Thierry Bouclier, qui parlait du monopole de la gauche dans la société et les institutions. Donc on ne peut pas dire que vous ne l'aviez pas vu. Alors en revanche, je pense que vous étiez au premier rang, Gabriel. La conférence du général Marc Pétier vous a intéressé?
Oui.
Oui, c'est ça.
Oui, oui.
Vous buviez ces paroles.
Oui.
Mais Alors, il est général, c'est vrai, mais c'est un grand œnologue aussi.
Exactement, c'est un grand œnologue qui nous avait présenté plusieurs cépages. Et en fait, l'histoire du vin à travers l'histoire des monastères. Et donc, pour lier la pratique à la théorie, on avait été contraint sous la force de déguster certains cépages après cette conférence.
Et alors chez vous, les généraux se suivent et ne se ressemblent pas, puisque vous aviez aussi le général Puga, mais là c'était beaucoup plus professionnel. Comment aligner nos aspirations professionnelles avec notre foi et nos devoirs de chrétiens?
Oui, tout à fait. Le général Puga, donc, qui a eu des hautes responsabilités dans sa carrière, nous a justement parlé de tous les cas de conscience qu'il a pu avoir et surtout comment, quand on est un catholique pratiquant, père de famille, comment avoir en même temps mené une carrière intéressante, mais sans jamais se trahir et tout en restant un bon catholique.
Donc il faut donc continuer sur cette lancée-là, parce que de fait, c'est très divers, c'est éclectique, passionnant et toujours en rapport effectivement, avec la... vos piliers, là, on voit prière, amitié, formation. Je pense une petite angoisse quand même quand vous avez 200 invités, la salle explose. Vous envisagez d'aller ailleurs, le Zénith, non?
Peut-être prochainement, oui. Ou un Stade de France, qui sait?
Ça, voilà, vous n'êtes pas très loin.
Ça fera beaucoup de baptêmes pour les abbés de Saint-Nicolas.
Et donc, c'est bien. Alors, j'ai envie de vous poser à l'un et à l'autre la même question. Vous savez, il y a des auditeurs qui se disent, mon Dieu, tout ça, c'est bien gentil, ça nous concerne moyennement, on est trop pantouflard aujourd'hui. Alors, Gabriel, secouez et extrayez cet auditeur, vous extrayerez une auditrice, Romain, extrayez cet auditeur de cette charentaise morale.
Non, justement, au contraire. Au contraire, on a besoin de s'engager et pas forcément d'un point de vue militant. Il faut se former, il faut s'attacher à créer de belles amitiés, de bonnes amitiés. Parfois même à accueillir ces personnes qui sont, comme le disait Romain tout à l'heure, qui sont converties ou bien qui viennent d'arriver à Paris et qui pourraient fuir en voyant au bout de 3 fois que personne ne leur adresse la parole. Et je pense que c'est un engagement qui est très important si on est vraiment convaincu de nos principes, puisque tout est quand même basé, même aux jeunes pros et surtout aux jeunes pros, sur la religion. Si on est vraiment convaincu de ces principes de charité, c'est un engagement qui est très utile pour soi-même, par la prière et la formation, et par l'amitié de fait, mais qui est aussi très utile pour les autres. C'est aussi un devoir de charité que de s'engager à accueillir ces gens qui arrivent et à leur montrer ce qu'est la grande famille des catholiques, quoi. Même chez les tradis.
Mais quand on vous voit, c'est la tradition à visage humain, souriant et chrétien, c'est ça qui est agréable. Alors Romain, là vous avez une jeune pro qui se dit « Oh non, moi je préfère le tricot, le crochet, je ne vais sûrement pas aller dans ça. » Qu'est-ce que vous lui dites ?
Eh ben, Gabriel a presque tout dit, mais c'est vrai que c'est très important de sortir un peu sa torpeur. C'est vrai, quand on est à Paris, on peut avoir tendance à avoir beaucoup d'activités à droite, à gauche, culturelles ou avec d'autres amis. Mais c'est important aussi de prendre soin de son âme, de sa formation intellectuelle et de ses amitiés. C'est vraiment ça, les jeunes pros. C'est proposer à chacun de se former intellectuellement, d'avoir aussi des moments de prière en communauté chrétienne, parce qu'on est là aussi pour reconstruire la cité catholique, et la cité catholique, elle passe par des communautés et par la prière, et construire de saines amitiés. Donc voilà, ce que je dirais, c'est qu'un saint triste est un triste saint, et je pense qu'une personne seule ne peut pas être un grand saint. Donc c'est important de rejoindre ces groupes de jeunes, que ce soit les étudiants hein, ou les jeunes pros. Donc à nos auditeurs, hein, si vous êtes vous-même dans cette tranche d'âge-là, donc 23-33 ans, ou si vous avez un enfant, un petit-enfant ou un arrière-petit-enfant qui pourrait être intéressé pour rejoindre les jeunes pros, eh bien, qu'ils nous écrivent donc à l'adresse suivante, contact@jeunes-pro75.fr, tout attaché, sans tiret, et donc on sera ravis de pouvoir l'accueillir dans notre association et lui présenter tous les événements qu'on organise.
Et là, par exemple, est-ce qu'il est encore temps de s'inscrire si on veut aller à la place Ollière? On peut, vous avez encore une ou deux places?
Oui, il nous reste encore quelques places, heureusement. Donc c'est certes dans une semaine et demie, mais il reste encore quelques places. Alors n'hésitez pas à vous inscrire rapidement, parce qu'on a aussi beaucoup de logistique à prévoir en vue de ce week-end. Mais il reste quelques places, jetez-vous dessus, on sera ravis de vous accueillir.
Alors, je redonne votre adresse. Donc, ça s'adresse à tous les jeunes professionnels, quelle que soit d'ailleurs leur profession, artisans, profession libérale, infirmiers, enseignants. Donc, de 23 à 33 ans, allez, peut-être même 33 ans et demi.
Allez, on peut même aller jusqu'à 34, si vous
voulez. Merci infiniment. Et donc, vous avez l'adresse suivante, contact@jeunes, avec un S, pro sans S, 75, tout attaché.fr. Et là, vous recevez, dès qu'il y a une activité, en gros, tous les 15 jours, on reçoit un programme, une invitation, et même vous aider les gens à s'inscrire, s'ils ont oublié, vous envoyez d'autres rappels pour qu'ils puissent venir facilement. Mais comme vous le disiez vous-même, ça n'est pas une association... bien qu'elle soit dirigée par un juriste trop formel, on peut venir comme ça et on peut amener des amis à la prochaine conférence sans difficulté. Il n'y a pas de carte, il n'y a pas de médaille à présenter avant d'entrer, c'est ça?
Non, absolument pas. Les jeunes pros sont ouverts à tous et on a plaisir d'accueillir tout le monde catholiques, non catholiques, même des musulmans si vous voulez, tant qu'ils ont un bon esprit. Et voilà, on a vraiment plaisir à accueillir tout le monde.
Très, très bien. Ben alors, il faut que vous nous donniez à la rentrée votre programme, les prochaines, parce que vous pouvez volontiers d'ailleurs dire aux auditeurs quelle est la prochaine conférence. Il est certain que, par exemple, quand vous avez reçu De Kéros, pour tous les auditeurs, ça aurait été très bien de savoir qu'elle intervenait chez vous à ce moment-là. Oui. On pourra...
Je repasserai avec plaisir pour vous présenter les conférences que nous organiserons à partir de septembre.
Un grand merci. Alors, longue vie aux jeunes pros.
Merci, monsieur l'abbé.
Nous allons maintenant écouter, chers amis de Radio Courtoisie, un message important.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libre. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Chers amis, vous avez compris que la diffusion s'élargit puisque vous avez cette nouvelle possibilité de recevoir Radio Courtoisie, pas simplement sur un poste de radio, mais maintenant vous pouvez emporter Radio Courtoisie avec vous sur votre téléphone grâce à ces technologies. Donc profitez-en. N'hésitez pas aussi en contrepartie à soutenir votre radio parce que tout cela, évidemment, a un prix. Et nous sommes bien heureux de vous offrir ces nouvelles possibilités, mais en échange, nous comptons aussi sur votre générosité. D'avance, un grand merci. J'ai la joie maintenant de recevoir, comme je vous l'avais annoncé au début de cette émission, le chef de chœur de Corps Ardence, Olivier Kiel. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes donc musicien, mais est-ce que vous êtes musicien de métier ou c'est... En plus, c'est une activité que vous utilisez au service de votre foi et de la liturgie, à côté d'un métier.
Alors, je ne suis pas musicien de métier. Je travaille dans la communication. Et à côté, donc, je développe cette passion depuis maintenant longtemps de la musique, puisque j'ai commencé le piano quand j'avais 8 ans. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de diriger des chœurs quand j'étais au lycée. Et depuis, actuellement, je dirige l'ensemble Corps Ardence, qui est anciennement l'ensemble vocal de Bailly. Donc voilà, c'est une passion que je développe à côté de la composition, à côté du piano. Voilà.
Donc, votre instrument, c'est le piano. Non seulement vous interprétez, mais vous composez aussi.
Oui, j'ai eu l'occasion de composer pour des courts-métrages par le passé, et surtout pour le plaisir. Voilà.
Et là, par exemple, est-ce qu'il vous est arrivé de composer pour l'ensemble que vous dirigez ou pas encore ?
Pas encore, même si il y a quelques ébauches, quelques idées que j'ai et que j'aimerais bien pouvoir mettre en place par la suite. Mais pour le moment, je préfère profiter du répertoire riche et bien, bien meilleur que ce que je fais actuellement. Voilà.
Alors, Corps Ardence, c'est du latin, c'est un cœur brûlant, un cœur ardent. D'abord, pourquoi avez-vous changé de nom et qu'est-ce que vous revendiquez avec cette nouvelle dénomination Corps Ardence? Ça se réfère à quoi pour vous?
Donc notre ensemble, initialement c'était l'ensemble vocal de Bailly. Donc je l'ai repris il y a un an et demi maintenant et nous ne sommes plus à Bailly et nous avons des instruments. Donc nous ne sommes plus un ensemble vocal ni de Bailly. Donc c'est pourquoi nous avons décidé de changer de nom. Sans évidemment changer notre mission de mettre en avant, de valoriser notre patrimoine de musique sacrée. Donc nous avons changé de nom il y a maintenant quelques mois. Et ce nouveau nom, Corps Ardence, qui signifie cœur ardent, sera mis en valeur par nos premiers concerts de ce mois de juin, et le mois de juin étant le mois du Sacré-Cœur. C'est l'occasion de manifester aussi notre attachement non seulement à l'art sacré, mais à ce qu'accompagne cet art, à savoir la liturgie.
Alors, quand je reçois un musicien, souvent je lui dis, au lieu de parler de la musique, laissons la musique parler. Donc, vous nous avez apporté un extrait. On va l'écouter sans rien dire. Les auditeurs devineront peut-être, mais c'est vous qui allez nous le présenter après. Donc, Virginie. J'ai la joie de recevoir Olivier Kiel, chef de chœur de Cor Ardens, que nous venons d'entendre. C'est Cor Ardens qui chantait, n'est-ce pas ?
Tout à fait, oui. Le Iode de Lobo, un chant Renaissance. Donc cet extrait des Lamentations de Jérémie. Donc c'était la troisième partie et un tout petit extrait de cette troisième partie que nous chanterons à nos concerts à venir.
Alors on va parler bien sûr de vos concerts, mais vous êtes combien dans cet ensemble, Cor Ardens, combien de chanteurs?
Nous sommes 25 chanteurs, entre 20 et 25 chanteurs, et nous avons en plus 10 instrumentistes.
Ah oui, et vous avez tous les pupitres, parce qu'on dit que souvent les basses font des faux, donc vous avez tout ce qu'il vous faut.
Alors on a la chance d'avoir des pupitres assez fournis et équilibrés, et ce qui nous permet en plus de faire des chants à 8 pupitres, à 8 voix. Et nous avons donc tous les pupitres qui sont présents et qui seront présents à ce concert.
Alors les auditeurs de Radio Courtoisie vont trépigner en disant, mais alors, où est-ce qu'on peut les entendre? Vous avez parlé de concerts, quels sont vos prochains concerts?
Alors, nos prochains concerts ont lieu ce mois de juin. Donc nous avons notre prochain concert dimanche, ce dimanche 7 juin à 16h30. Et ce sera dans le 5e arrondissement de Paris à l'église Saint-Médard. Et ensuite nous avons deux autres concerts, le 13 juin et le 14 juin, donc week-end prochain, d'après. Le 13 juin à 16h30 à Saint-Nicolas-du-Chardonnay et le 14 juin à 15h30 à l'église Saint-Étienne à Issy-les-Moulineaux.
Donc on les redonnera, ces adresses et ces dates, donc c'est très très proche. Alors Saint-Médard, pour ceux qui veulent, c'est au bout de la rue Mouffetard, c'est une église assez massive. Saint-Nicolas, ben c'est du côté de Maubert Mutualité. Et puis ensuite, ici, les Moulineaux, donc en région parisienne. Et quel est le but? Là, ce sont des concerts, mais c'est toujours de la musique sacrée que vous interprétez?
Oui, absolument, oui. Oui.
Donc, votre répertoire est toujours religieux?
Tout à fait. Et même, on va plus loin parce que donc il existe quand même quelques chœurs à Paris ou en région parisienne qui chantent du répertoire sacré, et nous, ce qu'on veut mettre en avant, ce qu'on veut valoriser, c'est un peu l'héritage qu'on a de l'ensemble vocal de Bailly, c'est mettre en avant le chant Renaissance, bien que nous avons élargi notre répertoire, mais nous restons sur des chants qui sont classiques au sens large, et voilà, donc on veut mettre en avant vraiment un héritage de plusieurs siècles de musique sacrée. Et c'est pour ça aussi que pour le moment, je ne veux pas forcément composer pour l'ensemble Cor Ardens, parce que je préfère valoriser cet héritage.
C'est ça, vous êtes très jeune, vous n'avez rien à voir avec la Renaissance.
Exactement.
Encore moins le Moyen-Âge. Voilà, c'est ça. Je peux vous demander votre âge, parce que vous êtes effectivement très jeune. Et j'ai commencé à l'âge de 8 ans, et vous en avez ?
J'en ai 27.
Donc ça fait, on peut dire que vous avez 20 ans que de pratique musicale.
Voilà, voilà, c'est ça.
Donc vous avez vécu, vous êtes d'une famille de musiciens ou...
Je suis d'une famille de musiciens, nous avons tous joué de la musique, nous n'avons pas tous pris un chemin aussi prononcé dans la musique, mais nous avons tous joué de la musique, chanté, et nous aimons beaucoup chanter ensemble. Voilà.
Et alors, vous connaissez bien sûr la phrase de Saint-Augustin, que certains d'ailleurs traduisent très mal, c'est le lien entre le chant et la prière. Saint-Augustin disait « chanter, c'est prier deux fois ». Je voudrais dire d'ailleurs « bien chanter, c'est prier deux fois ». Y a des gens aussi qui ne comprennent pas ça, qui disent « chanter, c'est crier deux fois ». Vous, Comment est-ce que vous vous situez par rapport justement à cette tradition décrite par Saint-Augustin, le lien entre la liturgie et l'art, la musique, l'art vocal?
Alors je considère que la musique est un moyen en fait de prier de façon intégrale. Nous sommes corps et âme, et la prière et l'union à Dieu n'est pas juste une union intellectuelle, mais si on en a la possibilité, il faut y mettre toute notre âme, notre cœur et notre intelligence, et la musique est un bon moyen justement de pouvoir élever notre âme de façon intégrale. Et voilà, donc justement nos concerts, nos chants permettent justement de nous élever vers quelque chose qui nous dépasse, parce que la musique, la tradition de musique sacrée qu'on veut mettre en avant ne reprend pas forcément de code de musique actuelle en fait, mais est tirée justement du chant grégorien, notamment le chant Renaissance.
Et là, les choristes que vous avez sont tous des musiciens confirmés ou ils savent tous déchiffrer, ou est-ce qu'on apprend quand même un petit peu au contact de Cor Ardens?
Alors on apprend, ce sont tous des musiciens, des chanteurs, et ils ont tous eu l'occasion de chanter dans différents chœurs, mais donc nous apprenons tous, y compris moi évidemment, et donc il y en a qui arrivent et qui maîtrisent parfaitement la musique, mais suite à beaucoup beaucoup de travail justement pour le chœur et pour l'ensemble.
Si certains étaient intéressés, déjà par vos concerts, bien sûr, on redonnera tout en fin d'émission les lieux et dates, mais est-ce que vous acceptez de nouvelles voix, ou bien vous avez votre plein et ça suffit comme ça?
Alors non, on accepte de nouvelles voix, et nous serons heureux d'accueillir de nouvelles voix après nos concerts. Voilà, donc
on a beaucoup aimé et on aimerait pas être simplement des auditeurs, on voudrait entrer dans le et vous accueillir.
Tout à fait, oui. Ça.
Avec quand même, je pense, il y a un minimum requis. Autant le dire tout de suite, il faut que les gens déchiffrent, qu'ils aient quand même des notions de solfège.
Exactement, oui.
Il faut pas qu'ils disent simplement, mais non, on chante avec mon cœur. Et à l'oreille, ça suffit.
Non, parce qu'effectivement, il y a quand même des exigences. On a un devoir vis-à-vis de cette musique qui nous dépasse. On est un peu au service de cette musique, donc on n'est pas uniquement là pour. On n'est pas un groupe d'amis qui faisons une activité ensemble. On est aussi au service de cet art sacré, et on est tenu à cette exigence, même si on la recherche. On ne l'a pas forcément atteinte, mais on la recherche, et donc cela implique évidemment une sélection. À l'entrée, en fonction du niveau musical.
Donc, il faut s'attendre à une audition.
Voilà, exactement.
et ensuite, soyons très précis sur les exigences. Comme vous le dites vous-même, ça n'est pas vous qui fixez ces exigences, c'est votre répertoire, oui. Et le but de votre ensemble Cor Ardens qui fixe ces exigences. Ça veut dire des répétitions tous les combien?
Nous répétons presque une fois par semaine, oui. Tous les mardis soirs. Plus un week-end par mois, enfin un samedi par mois pour intégrer l'orchestre, puisqu'il y a des instrumentistes qui viennent de loin, il y en a qui viennent de l'Ouest, il y en a qui viennent de Lille, donc on répète aussi le week-end une fois par mois, en plus d'une répétition par semaine, donc 2 heures par semaine, et ça peut aller jusqu'à 4 heures un samedi par mois.
C'est ça, il faut se dire, c'est ça, ça n'est pas un divertissement pour occuper quelques
Exactement.
Heures, non, c'est vraiment... le désir de servir la musique et à travers la musique, servir sa foi, comme ça. Qu'est-ce qui vous a donné envie? Parce que donc, vous disiez que c'était au départ l'ensemble de Bailly, et puis vous poursuivez avec cette belle dénomination Cor Ardens, dont vous nous avez expliqué le sens spirituel. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cela? Des musiciens qui vous ont dit il faut faire quelque chose et qui vous ont poussé? Est-ce que c'est vous qui vous avez dit il faut pas que je reste comme ça et vous avez recruté? Comment ça s'est passé?
Alors il y a un an et demi, donc j'ai repris l'ensemble vocal de Bailly, Et tous les musiciens sont partis. En fait, l'ensemble vocal de Bailly n'avait plus personne pour continuer. Et ce qui est dommage, puisque le niveau et l'exigence de cet ensemble était quand même assez avancé. Donc, on m'a demandé, j'avais été il y a 6 ans à l'ensemble vocal de Bailly, donc on m'a demandé si je pouvais reprendre, donc je ne connaissais plus personne.
J'ai repris du service, donc vous êtes un retraité qui reprend du service.
Voilà, retraité de 27 ans.
À 27 ans, très bien. Voilà.
Donc, y a la plupart des choristes sont partis, il y en a quelques-uns qui sont restés, mais c'était bien insuffisant pour produire des concerts, donc il a fallu recruter de façon assez large. Et ensuite à cela, on a pu faire quelques concerts à Noël il y a 1 an et demi et en juin. Et après ces concerts, donc, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de rejoindre et c'est comme ça que ça s'est développé. Aujourd'hui, on est 35 musiciens et chanteurs. Donc voilà, ça s'est développé comme ça et le changement de nom, c'est décidé. On en a discuté avec quelques personnes qui étaient plus anciennes du chœur. Donc on a décidé de changer de nom parce qu'effectivement, il y avait une nouvelle jeunesse qui revenait au chœur, qui ne connaissait pas l'ensemble vocal de Bailly. Et ce nom Cor Ardens, qui est au-delà du sens spirituel, signifie aussi la passion qu'on a pour la musique sacrée, et cette passion est portée par un chœur qui est jeune. Donc tout cela faisait qu'il était opportun de changer de nom.
Et donc c'est ça, vous êtes à la fois un cœur, c'est-à-dire corps en latin, c'est-à-dire l'organe, mais c'est aussi un cœur parce que vous mettez votre voix, vos organes vocaux au service de votre passion et de votre foi. Et au fond, j'ai bien compris qu'il n'y a qu'une seule catégorie de gens qui ne peuvent pas postuler chez vous, c'est tous les tièdes et tous les froids.
Voilà, il faut être passionné.
Il faut être passionné et ardent, donc très, très désireux vraiment de faire passer cette belle musique. Et la question, bien sûr, c'est est-ce qu'un jour vous enregistrerez ?
Alors, nous avons déjà enregistré certains concerts. Nous aimerions bien enregistrer des moments où on prévoit de s'enregistrer sans assistance parce qu'il y a beaucoup de bruit autour, mais nous n'avons pas eu l'opportunité encore de le faire, même si des enregistrements ont été faits par l'ancien chœur, l'ensemble vocal de Bailly, des CD ont été vendus à l'époque, mais pour le moment, depuis que j'ai repris l'ensemble, nous n'avons pas d'enregistrement publié, mais cet été nous commencerons à publier quelques enregistrements, voilà, qui seront accessibles sur YouTube.
Alors, je crois que vous avez apporté un autre enregistrement. Je vais demander tout simplement à Virginie si elle a pu le mettre en place. Donc, on va écouter un deuxième fragment. Je vais demander à Olivier Kiel, que j'ai la joie de recevoir, lui qui préside aux destinées du chœur Cor Ardens. Qu'est-ce que nous venons d'entendre ? D'abord, on a entendu le chœur Cor Ardens.
Oui, c'était une répétition récente d'un de nos chants qui sera chanté à notre concert. C'était le Ovo Somnes de Victoria.
Et ça, vous nous avez annoncé trois concerts, un à Saint-Médard, un à Saint-Nicolas et un à l'église des Sillé-Moulineaux. On pourra avoir, c'est le même répertoire, le même programme, et on pourra avoir ce qu'on vient d'entendre.
Exactement.
Là. Donc, les auditeurs qui viendront vous écouter ne seront pas déçus, ils ont aimé, ils pourront vous réécouter là. Voilà. Donc ça, c'est bien. Et là, combien de temps pour mettre en place ça? Parce
que... le programme entier?
Oui.
Alors, nous avons commencé à répéter au mois de février, donc quasiment un mardi, quasiment tous les mardis, pardon. Et donc, on répète ces chants depuis le mois de février, plus la pièce chœur-orchestre, qui sera le Stabat Mater de Reinberger, qui dure 13 minutes, qu'on répète tous les week-ends, enfin, un week-end par mois, pardon, depuis le mois de janvier. Voilà.
Donc, c'est beaucoup de travail.
Exactement.
Mais comme ils sont tous passionnés, comme vous le disiez, ils travaillent eux-mêmes à côté, ils ont tous un métier. Et donc, ils prennent sur leur temps, au fond, comme les grands sportifs aussi, qui se disent, oui, mais quand on aime, on ne compte pas.
Voilà.
Et on va répéter le soir, après le travail, ils viennent répéter en soirée. Et là, une répétition, c'est combien de temps?
Une répétition, c'est 2 heures.
2 heures.
En moyenne.
Ouais.
Parfois, ça dépasse un petit peu. On essaye de ne pas trop dépasser. Et effectivement, il y a tout le travail à côté, puisque en répétition, nous ne déchiffrons pas. Il y a une règle dans notre ensemble qui est que si le chant, si les notes ne sont pas sues, on passe au chant suivant, on ne le répète pas. Et arrivé au concert, s'il n'est toujours pas su, on le chante quand même. Donc, finalement, ça se passe très bien, puisque tout le monde travaille évidemment à côté. Donc comme ça, on gagne beaucoup de temps et on travaille davantage l'interprétation des textes dans le chant, et on ne travaille pas la partie purement technique, solfège et musicale.
Voilà. Ah, c'est très bien. Alors, Guylaine, je sais que vous avez un rendez-vous toujours dans le domaine musical à proposer aux auditeurs de Radio Courtoisie.
L'Association des musiciens et mélomanes chrétiens demande que l'on annonce leur prochain événement, Piano, Chant et Poésie, qui se tiendra donc dimanche 21 juin à 17h30, 20 rue Gerbert, Paris 15e. À cet événement interviendront Anne Darmaillet pour la poésie, Claire Carabonne pour soprano lyrique et Marianne Potier au piano. Les places étant limitées, il faut prévenir Marie-Vonne Tréguier au 06 81 69 90 04. Donc dimanche 21 juin à 17h30, 20 rue Gerbert, Paris 15e. Une collation sera servie à l'issue de la soirée et la participation est libre.
Et puis le dernier numéro de Nouvelle Chrétienté vient de sortir, et c'est même aujourd'hui qu'il est sorti. Et il est consacré, c'est le numéro de mai-juin, il est consacré aux 4 futurs évêques de la fraternité Saint-Pédis, avec un grand dossier sur les sacres de 2026 à la lumière de ceux de 1988, ce qui avait été fait par Mgr Lefebvre et Mgr de Castromayer. Donc on trouvera ça, avec aussi une belle déclaration de Mgr Schneider qui soutient la fraternité Saint-Pédis. Et un très bel article sur les splendeurs du baroque hispanique consacré à l'exposition qui a lieu au musée Jacquemart-André actuellement. On peut se procurer ce numéro pour 4 euros. C'est en vente à la librairie des comptoirs des monastères, c'est-à-dire 33 rue Galland dans le 5e. Sinon, on peut écrire aussi pour s'abonner, 20 euros pour un numéro tous les 2 mois. Donc 6 numéros dans l'année pour 20 euros seulement, donc 33 rue Galland, Nouvelle de Chrétienté. Le chèque étant à l'ordre de Civiroma, C-I-V-I-R-O-M-A. Et je reviens à Olivier Kiel. D'abord, on va redonner, puisqu'on est en train de donner des rendez-vous, il faut que nous redisiez, parce que c'est très vite, il ne vous reste plus beaucoup de temps pour faire vos répétitions d'ailleurs, vous allez... avoir vos concerts, donc le prochain c'est...
Le prochain a lieu dimanche 7 juin à 16h30.
Et c'est...
À l'église Saint-Médard, dans le 5e arrondissement.
Voilà. Et puis le suivant, toujours dans le 5e arrondissement.
Tout à fait, le 13 juin à 16h30 à Saint-Nicolas-du-Chardonnay.
Voilà. Et le troisième.
Et le lendemain, nous avons un concert le 14 juin à 15h30 à l'église Saint-Étienne à Issy-les-Moulineaux.
Mais c'est accessible par métro, il faut le savoir.
Voilà, tout à fait.
Donc on peut faire cela. Et ce sont des concerts gratuits ou il y a un droit d'entrée ?
Alors on peut rentrer, ce sont des concerts à entrée libre. Voilà, ce sont participation libre.
Voilà, donc c'est, l'entrée est gratuite et la sortie est payante.
Exactement.
Il y a un petit panier, tout simplement.
Voilà,
et on met ce qu'il faut, on veut, ce qu'on peut à la sortie, comme ça. Et alors, quels sont vos projets pour l'année qui vient ? Vous avez déjà... alors, je ne vais pas vous demander les dates de vos concerts, mais vous allez travailler quoi plus spécialement ?
Alors, pour le moment, le programme est encore en cours d'élaboration pour les concerts qui auront lieu au mois de décembre et janvier, donc les concerts de Noël. Le but, ce que je souhaiterais, c'est de pouvoir développer notre orchestre, puisque notre orchestre a été créé au mois de janvier. Il n'y avait pas d'orchestre auparavant, il n'existait pas. Donc ce serait de pouvoir justement développer cette partie-là et travailler beaucoup notre interprétation. Et voilà, pour pouvoir produire à Noël des concerts de Noël avec orchestre.
Et là, vous avez 10 musiciens, mais voudriez étoffer encore un peu ?
Alors, si possible, parce qu'il faut, il faut trouver des musiciens qui soient disponibles. Ils sont toujours très sollicités dans différents ensembles. Mais si nous pouvons, j'aimerais bien étoffer pour avoir des cuivres, pour avoir des bois, des cordes. Pour le moment, nous avons des cordes uniquement. Donc, violon, alto, violoncelle, un orgue. Et j'aimerais bien pouvoir développer avec d'autres instruments.
Bon, bah donc ça, on le retient. Et c'est très important, je crois, ces concerts de Noël, parce que même les gens qui ne sont pas très, très religieux pensent que Noël, c'est une fête importante. Et, et là, vous pouvez certainement, vous, corps ardince, toucher les cœurs.
Oui.
Qu'est-ce que vous proposez dans ce genre de concert ? Alors, à Noël, qu'est-ce qu'on chante ?
Alors, nous chantons, Noël dernier, nous avons chanté des chants traditionnels, beaucoup de chants traditionnels et quelques chants plus complexes, non pas que les chants traditionnels ne soient pas complexes, mais voilà, nous avons surtout chanté des chants traditionnels régionaux à quatre voix, parfois avec orgue, et c'est intéressant parce qu'il y a effectivement des personnes qui ne fréquentent pas du tout le milieu catholique, et qui sont venus et qui ont dit « Ah, je connais, j'ai déjà entendu ça, on écoute ça en famille à Noël, même s'ils ne savent presque pas que c'est un chant religieux. » Et donc, sauf que, donc, on leur explique et donc ça peut les interpeller.
Ça va être très bien. Mais alors, on vous demandera au moment de Noël de nous donner votre programme et on l'annoncera, vous nous direz, et peut-être même que vous pourrez revenir, ça serait très bien.
Avec plaisir.
Et on souhaite avec un disque. Nous nous quittons maintenant, chers amis de Radio Courtoisie. La prochaine émission aura lieu, Guylaine,
le jeudi 2 juillet.
À quelle heure ?
À 19h30.
Très bien. Un grand merci.
Merci
à
beaucoup.
Bientôt.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des Traditions, dirigé par l'abbé Laurence et assisté de Guylaine. Diffusé en direct sur Radio Courtoisie jeudi 4 juin 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.